Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. C'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour et bienvenue dans une émission exceptionnelle dans laquelle des jeunes en service civique ont travaillé sur plusieurs sujets d'actualité et ont découvert pour la première fois l'univers de la radio. Nous vous proposons de découvrir, avec toute votre indulgence, puisqu'ils y ont mis tout leur cœur, le sommaire.
Nous écouterons Valentin, Antoine et Emma qui nous parleront de l'Europe. Un reportage qui sera suivi d'un micro-trottoir sur la consommation genrée par Aurélie, Sophie et Malvina. De leur côté, Jason et Anaïs vont vous parler d'écologie. Nous terminerons avec Laura, Camille et Lydia qui se sont questionnés sur votre bonne santé dans notre monde moderne. Mais tout de suite, retrouvons Vincent, Anaïs et Anaïs pour un micro-trottoir sur les jeux de société.
Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis avec Vincent et Anaïs. Nous sommes en service civique dans l'association Veni Vidi Ludi. Nous avons cherché à savoir ce qu'apportait le jeu de société. Pour cela, nous sommes partis à la recherche des habitants d'Évreux.
Quelles sont vos pratiques de joueurs ?
Moi, je joue pas souvent aux jeux de société et aux jeux vidéo.
Carte, comment ça s'appelle ?
Tarot.
Je joue pas beaucoup, donc...
Bof.
Ouais, voilà.
J'en ai pas. Dans la stratégie.
Stratégie ?
Avez-vous un souvenir de jeu à partager ?
Non.
Non. Bon. Vous avez jamais joué avec papa et maman, et tant que
si. Si, mais il n'y a rien eu de spécial.
D'accord.
Je sais pas trop.
Non, pas vraiment, à part...
Famille ?
J'apprécie beaucoup jouer avec mes cousins, parce qu'on rigole vraiment beaucoup, et que c'est vraiment très amusant.
Quand j'étais petit, j'aime bien jouer, c'était à croque-carotte.
Selon vous, qu'est-ce que le jeu peut apporter ?
Ça peut apporter... par exemple, si on joue en famille, ça peut faire des bons moments et des souvenirs, mais des bons moments en famille, à partager. Ouais, ouais.
On passe des moments ensemble, on oublie les soucis.
La solidarité quand c'est en équipe ou des moments conviviaux, quoi. De la rigolade.
L'amusement, de
la bonne entente.
Voilà, c'est ça, la bonne entente, c'est des choses qui. Ça nous met plus de bonne humeur.
C'était le micro-trottoir sur les jeux de société qui ne fut pas réellement facile, les personnes étant pour la plupart prises par le temps. Et nous retrouvons maintenant Emma, Valentin et Antoine.
Bonjour à tous, après ce sujet sur les jeux de société, nous allons vous parler des actions de l'Union européenne pour les jeunes. Pour cela, la Maison de l'Europe a accepté de répondre à nos questions.
Quels dispositifs sont mis en place par l'Union européenne pour les jeunes ?
Alors, on a plusieurs dispositifs dans le domaine de la formation continue, surtout avec le programme Erasmus+, qui est un programme pour la mobilité européenne et internationale, mais aussi, c'est un programme de formation tout au long de la vie. Donc, c'est pas juste on va en vacances quelques mois et on revient sans rien. C'est vraiment le but, c'est d'avoir une expérience à l'étranger et d'en faire profiter son territoire tout de suite au retour. Et donc, dans ce programme Erasmus, on a un volet pour les étudiants qui partent faire leurs études. On a un volet pour les lycéens, par exemple aussi, avec leur classe, peuvent utiliser Erasmus. Mais on a un volet pour ceux qui veulent faire un break ou veulent, s'investir dans une association avec le service volontaire européen. Mais il n'y a pas que le programme Erasmus pour la jeunesse, il y a aussi le programme garantie pour la jeunesse qui aide ceux qui sont inscrits dans une mission locale, par exemple, à être dans un programme spécifique d'accompagnement pour trouver un emploi viable par la suite. Donc il y a plusieurs programmes européens, il y a le Fonds social européen qui aide à former les jeunes aussi. Donc pas mal de choix possibles pour les jeunes. Après, en spécificité, je peux vous parler plus spécifiquement d'autres sujets.
Après, plus particulièrement, justement, parce que ce serait dans le thème du service volontaire européen, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi ça consiste, puisque là on est dans le cadre d'un service civique en France et au niveau européen, qu'est-ce qu'on fait en fait?
Alors, le service volontaire européen, donc comme le nom l'indique, c'est une expérience de volontariat. Donc, le jeune va s'investir dans un projet, dans une structure à but non lucratif dans l'Union européenne. C'est une mission qui va retrouver sur un site internet qu'on peut mettre à disposition s'ils viennent nous rendre visite sur la Maison d'Europe ou sur notre site. Il trouve un projet. Le projet peut durer entre 2 et 12 mois et l'Union européenne va prendre en charge quasiment tous les frais possibles que ce voyage va engendrer, comme le billet d'avion, le logement sur place, la nourriture, les assurances santé, responsabilité.
Ouais, donc, en fait, réellement, c'est vraiment l'envie en fait qui compte, puisque s'il n'y a pas de vraiment de frais personnels engagés derrière, c'est vraiment l'envie qui compte.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de frein logistique ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'envie d'y aller et de trouver le projet qui va faire que vous partirez. En plus de ça, au niveau de la région Normandie, à partir du 1er juillet, on va aussi avoir 40 euros par semaine pour les personnes qui souhaiteront déposer un dossier SVE auprès de nous. Donc, ils peuvent obtenir aussi 40 euros par semaine et en plus de l'aide aussi pour, si imaginons que le jeune va trop loin et qu'il reste quand même une petite partie à payer pour le billet d'avion, c'est sur une base de forfait, donc imaginons, il pourra avoir aussi 200 euros d'aide de la région Normandie. Donc vraiment, il n'y a quasiment aucun frein financier.
C'est vraiment bien structuré. Et du coup, comme on parlait d'Erasmus tout à l'heure, est-ce que le service volontaire européen et Erasmus peuvent se combiner dans le cadre d'un échange d'un étudiant qui part à l'étranger pour ses études, est-ce qu'en même temps il peut avoir un service volontaire européen?
Totalement. Il peut faire d'abord un projet Erasmus au niveau de ses études. Pareil, il aurait droit aussi au même niveau financier au niveau de la région, mais au niveau européen c'est différent, il y a une bourse Erasmus plutôt.
D'accord.
Et il peut donc après faire un service volontaire européen. Et il peut même cumuler avec un service civique. Donc il y a parfois des jeunes qui font un service civique et qui enchaînent directement avec un service volontaire européen.
Et enfin avant après, mais est-ce que pendant c'est compatible aussi, dans le sens où il n'y a pas d'incompatibilité au niveau de dire si vous faites Erasmus vous pouvez pas faire le service volontaire européen en même temps ou ça?
Non, il faut d'abord choisir en fait le
D'accord,
programme
oui,
dans
voilà,
lequel on veut s'insérer. Voilà, on peut enchaîner les différentes mobilités, mais on peut pas les faire en même temps.
D'accord. Et puis, pour finir, on aurait voulu savoir si l'Union européenne compte mettre en place de nouveaux dispositifs pour les jeunes en dehors de ceux dont on a déjà parlé.
Alors, il y a un nouveau dispositif qui se met petit à petit en place qui s'appelle le Corps européen de solidarité.
D'accord.
Là, le système concerne aussi les stages professionnels, les jobs pro, ainsi que le volontariat, tout type de mobilité. En fait, on s'inscrit sur le site de la Commission européenne pour le Corps européen de solidarité et on change la logique. Ce n'est plus le jeune qui va chercher un job ou un stage, c'est plutôt les entreprises qui vont venir ou les associations qui vont venir piocher dans cette base de données de jeunes pour permettre aux jeunes de partir à l'étranger. En même temps, les jeunes peuvent continuer aussi leur démarche de leur côté, mais là, c'est un autre système pour faciliter les échanges entre les professionnels et la jeunesse. La Commission européenne a mis en place une plateforme, donc on incite vraiment la jeunesse à avoir de l'expérience à l'étranger et de revenir en France et de mettre ça, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'étranger, de le remettre en France.
D'accord, mais je vous remercie. Si on résume un petit peu, c'est de dire que l'Union européenne propose plusieurs dispositifs aux jeunes européens et que la plupart de ces dispositifs sont pris en charge et que du coup c'est vraiment la seule volonté des étudiants, des jeunes, de s'investir dans ces différents dispositifs.
C'est ça. Et si les jeunes ont besoin d'aide, notamment au niveau du département de l'Eure ou même ailleurs en France, on est 50 centres Europe direct. Il y a aussi 34 maisons d'Europe qui peuvent venir en aide à la jeunesse pour monter les dossiers, les accompagner, leur trouver même des lieux d'habitation à l'étranger. Enfin, vraiment, on peut accompagner les jeunes à mettre en place leur projet. Donc, maintenant, c'est aux jeunes de s'investir et d'avoir envie de partir et de revenir avec un bagage, avec de nouveaux bagages.
Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie d'avoir répondu aux quelques questions pour cette interview autour de l'Europe et les jeunes. Et puis, voilà, donc à nos auditeurs, si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre la Maison de l'Europe d'Evreux, qui se trouve 4 rue du Docteur Léra, et vous pouvez la joindre au 02 32 35 23 89. Au revoir, je vous remercie.
Au revoir, merci.
Suite à cette interview, vous avez pu apprendre les différents dispositifs mis en place pour les jeunes par l'Union européenne. À vous les jeunes qui nous écoutez, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Merci à vous. Retrouvons maintenant Sophie, Malvina et Aurélie.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, alors que la différenciation des genres dans les jouets d'enfants semble être une banalité, nous nous sommes demandé d'où venait cette norme. Nous avons donc réalisé un micro-trottoir à la sortie d'un magasin de jouets afin d'en savoir un peu plus sur l'opinion publique.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait de différencier le genre des jouets dès l'enfance ?
Ça n'a aucun intérêt.
Pour moi, je pense que c'est plus pratique pour trouver. Je pense qu'on rentre dans le magasin, on va chercher des choses pour une petite fille. On sait déjà que cette place-là, il y a que des choses de filles. Vice-versa, pour les garçons, pareil. Mais je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que tu penses que toi, un garçon, Maria?
Pour moi, c'est bien. Moi, je pense que quand je veux un truc pour les garçons, mais c'est vrai que quand il y a des jouets, que les filles et les garçons jouent ensemble. Avec un jouet pour les garçons. Et par exemple, mon fils, il aime bien jouer avec des trucs pour les filles. Alors, quand ils sont tout petits, j'achète les deux. Par contre, quand ils sont déjà grands, je sais bien. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Mais quand ils sont petits, mon fils a joué avec les deux.
Ah oui, c'est bien, oui. Oui.
Selon vous, d'où vient cette tendance?
Je pense que ça fait depuis que les jouets ont été créés, on a fait des jouets pour les garçons, des jouets pour les filles. Et quand ils sont petits, ils ne font pas de distinction, les enfants. Vous mettez un bébé, vous lui mettez un jouet pour fille ou jouet garçon, il s'en fiche, il joue avec. En grandissant, par contre, ils ont envie de jouer garçon quand ils sont garçons parce qu'on leur inculque ça. Nous-mêmes, on ne fait pas attention, mais... Nous-mêmes, en tant que maman, quand on a une petite fille, on va lui offrir une poupée, un garçon va lui offrir une poupée. Donc c'est nous qui leur inculquons ça, finalement. C'est dommage.
Je pense que c'est le marketing. C'est pour vendre. Oui, je pense que c'est ça. Et ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. C'est pour vendre.
Je pense qu'il y a un mélange énorme. En temps de changer les choses, il y a des filles qui ont envie de jouer avec des jouets des garçons et des garçons qui ont envie de jouer avec... des poupées, des jouets des filles. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a tellement de belles choses pour chacun.
Non, je ne sais pas.
Quand vous étiez petite, par quel type de jouets vous étiez attirée?
Un petit peu tout, j'avoue. Les poupées, les billes, les petites voitures.
Il n'y avait pas vraiment de genre, en fait.
Non, moi j'ai eu de la chance d'avoir, vu mon âge, j'ai eu de la chance d'être très très gâtée. Et mes parents étaient très ouverts d'esprit et m'ont offert aussi bien des billes que des petites voitures, que des poupées. Donc j'ai eu beaucoup de chance.
D'accord.
Pour quelqu'un de ma génération.
Moi c'était les voitures. J'ai joué tout le temps des voitures avec mes cousins. C'est tout le temps des voitures. Après quand j'étais à l'âge de 10 ans, là c'était les poupées, des petites maisons, des faire manger. Mais quand j'étais petite c'était les jeux du garçon, hein, des petites coulettes. C'était ça, c'était les jeux du garçon.
Oui, moi aussi, pareil, c'est le ballon. Moi, j'étais une vraie joueuse. Quoi. Voilà. Mais les poupées, voilà, et les maisons. on a toujours un rêve d'être maman, de s'y occuper. Voilà.
Ah, mais quand tu étais plus grande, mais quand tu es petite, tu joues avec les trucs des garçons.
Oui, c'est beaucoup comme ça. Ça fait plaisir. De toute façon, le but, c'est de jouer et de s'amuser. Il faut que les enfants arrêtent de dire « Oh, je vais être grande, je vais grandir. » Voilà. Non, il ne faut pas penser à ça. Il faut surtout profiter de l'innocence. C'est là qu'il y a le bonheur. C'est les petites choses qui donnent le bonheur.
Des poupées. Oui.
Et voilà, c'était le micro-trottoir à la sortie d'un magasin de jouets sur un sujet qui est négligé par la population, la consommation genrée dès l'enfance. Nous retrouvons maintenant Anaïs et Jason pour nous parler de l'écologie.
Étant nous-mêmes préoccupés par les problèmes environnementaux, nous sommes allés interroger des personnes dans la rue afin d'avoir des points de vue extérieurs et de solliciter leur attrait pour l'écologie.
Quel type d'action faites-vous pour limiter votre impact sur l'environnement ?
Je recycle et généralement quand je peux faire des trajets à pied, je les fais à la place de prendre...
Alors déjà, ça fait plus de 20 ans que je mange plus de viande. Je limite ma consommation d'eau en récupérant l'eau, je limite ma consommation d'électricité, j'ai pas de portable, pas d'internet, je trie mes déchets, j'essaye de tomber à zéro déchet, moins de poubelles
possible. Les questions environnementales ont-elles un impact sur vos moyens de déplacement justement ?
Bah oui, dès que je le peux, je prends les transports en commun où je vais agir.
Bah pas énormément, vu que les transports en commun sont super chers. Et il n'y en a pas assez par chez nous. Quand tu habites à la campagne, généralement, le bus il passe à 7h le matin et il repasse chez toi à 19h, 20h le soir.
Donc, oui, c'est ça.
Et puis bon, 20 km en vélo pour l'instant.
Que faire pour que les gens se sentent plus concernés ?
Peut-être mettre des affiches ou vraiment bien expliquer à l'école ou dans l'éducation, parce que ça passe peut-être pas assez dans tous ces moyens.
Bah, il faut les racketter. Il faut leur mettre des amendes. Parce que le français, il est un petit peu idiot et je pense que tant que tu le raquettes pas au portefeuille, ça changera rien.
Nous avons eu des témoignages globalement positifs. Une partie de la population est tout de même mobilisée et investie sur le sujet.
Dans le cadre d'une enquête portant sur la sédentarité, nous avons interrogé des passants de tous âges dans la ville d'Évreux, afin d'avoir une vision globale de leurs habitudes. De nos jours, nous entendons souvent des discours encourageant à une pratique sportive régulière.
Cependant, nos habitudes, confrontations fréquentes aux écrans, emplois qui requièrent une position assise, déplacements fréquents en voiture ou dans les transports en commun, nous insistent parfois malgré nous à adapter de comportements sédentaires.
Combien de temps passez-vous devant les écrans par jour ?
À l'écran ?
Oui.
À l'écran, à la télévision ?
Oui, voilà, le portable, la télévision, la tablette.
Et puis, ça dépend.
Ça dépend.
Et tout à fait, la nécessité. Par exemple, si j'en ai besoin de faire des recherches, et du coup, je passe mon temps pour faire des recherches. Ou bien si je reçois des appels, je réponds. Mais je ne vais pas passer tous mes temps
voilà,
l'écran. Êtes... Tout à fait.
On va dire 1h30, 2h.
Deux heures.
2 heures par jour ?
3 heures.
3 heures par jour ?
Écran, ordi, tout ça, tout confondu. Par jour ?
Oui, par jour.
Oh, pas beaucoup, il faut aller 1 heure.
Pas beaucoup, 2 heures par jour.
Est-ce que vous réfléchissez au temps que vous consacrez à votre activité en lien avec votre santé ?
Si je comprends bien, vous parlez ici du rapport entre ma santé et les activités ?
C'est ça, en fait, si vous êtes plutôt actif, par exemple, vous préférez marcher que prendre la voiture ou les transports en commun ?
Évidemment, moi, dans ma vie quotidienne, j'aime... souvent marcher à pied, parce que du coup, quelqu'un qui fait des marches, des kilomètres, disons même à 10 kilomètres comme ça, ou bien, ça dépend, c'est comme si tu fais vraiment des activités sportives.
Aucune.
Ça n'a pas d'importance pour vous, sur votre santé ou quoi que ce soit ?
Non, non.
Ah bah, c'est très bon, hein ?
Oui.
Ah bah oui, quand on marche, ça fait du bien, ça.
Vous avez
ça
bien...
réchauffe tout le corps. Hein.
D'accord.
Ah, oui. Mes hernies discales, je ne peux pas faire ce que je veux.
Donc voilà.
Voilà, ouais. C'est surtout
c'est dommage.
Ça. J'ai été opérée 2 fois, puis j'en ai encore 2. Alors,
d'accord.
Je ne peux pas opérer 3 fois. C'est l'équilibre.
Oui,
je fais du yoga aussi. Donc, c'est vrai que marcher yoga, c'est... Ouais. Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là qu'une démarche de défense.
D'accord. Est-ce que vous pratiquez une activité physique régulière ?
Tout à fait. En fait, j'aime le football. Je joue au football. Oui.
La marche.
La marche ?
Oui.
Très bien.
Et un peu de vélo, quand même.
Pétanque.
Non, j'ai une hernie discale, je ne peux rien faire.
Ah, même pas la marche ?
Je marche un peu, mais faut pas... Parce que sinon, j'ai mal dans les jambes après.
Aucune.
Marche.
Lors de notre micro-trottoir,
nous avons réussi à interroger des personnes aux profils très différents. Dans l'ensemble, les personnes étaient plutôt sceptiques à l'annonce du sujet, puis se sont rendues compte qu'elles étaient concernées et ont collaboré avec le sourire. En général, les participants pratiquent, dans la mesure du possible, une activité physique. Celle-ci dépend des tranches d'âge qui, selon leur capacité, exercent ou un sport régulier ou la marche.
Vous venez d'écouter une émission réalisée en une après-midi par les volontaires en service civique de votre région, une course folle après les badauds bousculés par nos interrogations dans leur pérégrination. Merci à Laura, Camille, Lydia, Vincent, Anaïs, Anaïs, Jason, Anaïs, Valentin, Antoine, Emma, Aurélie, Sophie et Malvina. En espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, nous vous souhaitons une bonne soirée avec Radio Principe Actif. Au revoir.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.